Bonjour, bienvenue dans notre 31e émission, dans notre musée imaginaire. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent aux États-Unis, Céline, Camille, à Toulouse, avec moi Monica, Laetitia, Annie, Christine. Et aujourd'hui, nous allons, en plus c'est une très belle journée, nous sommes au printemps, l'été, et peut-être vous avez la chance de partir en Italie, à Rome, à Florence, même à Fontainebleau, en France. Et vous aurez peut-être la chance de rentrer dans une salle d'un musée ou rentrer dans une église et découvrir des œuvres remarquables avec un nouvel art. Donc je vous entraîne dans une nouvelle aventure qui va nourrir notre musée imaginaire et nous allons en parler le soir à la veillée. Ce nouvel art, c'est le maniérisme. Donc j'ai intitulé cette émission l'art de la Renaissance, du maniérisme au classicisme en Italie dans un premier temps. Donc le maniérisme, c'est une dénomination pour nommer une période historique, 1520 jusqu'à la fin du XVIe siècle, avec une nouvelle manière d'approcher l'art, la bella maniera. On déforme le réel pour optimiser l'idéalisation des corps. Exemple, avec déjà la Pietà de Michel-Ange, où la robe est démesurée. Si on déroulait la robe de la Vierge, elle ferait 8 mètres de long. Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, va augmenter la déformation des corps, identique pour Raphaël. Donc, le maniérisme, question comment va-t-on passer de la perfection des corps avec Raphaël à Parmesan, avec un tableau de Parmesan Vierge à l'enfant, où on voit une Vierge au long cou, une vierge haute, c'est une nouvelle manière de déformer une réalité pour une expression de l'art. On va déstructurer pour aller vers autre chose. Et en 1550, Vasari va opposer la maniera vecchia à la maniera moderna, la bella maniera. C'est un art, c'est une nouvelle licence par rapport à la règle. On se permet des distensions, des dépassements, transformation de la beauté de la nature par un trop-plein d'art, on le sophistique. C'est un art de cour, cultivé, s'adressant à des gens cultivés, art des codes, des symboles, et nous le verrons dans différents tableaux. C'est un attrait pour tout ce qui est pour l'artificiel, détachement du naturel. On va adorer des positions incongrues pour les personnages, torsion des corps, déformation des corps, avec des couleurs que je trouve remarquables, avec des tons acides, des tons crus. Vers les années 1520, le maniérisme apparaît dans un contexte de crise politique, de crise religieuse et artistique. Alors, pour mieux comprendre quel est ce contexte historique, pour comprendre cette nouvelle artialisation de la peinture. Les guerres d'Italie d'abord avec le fameux sac de Rome. Beaucoup, l'Italie représente beaucoup de convoitises pour les États voisins, notamment pour la France. Charles VIII dispute le royaume de Naples avec l'Aragon. Guerre d'Italie avec Louis XII, puis François Ier, qui est roi en 1515, Marignan, mais aussi Pavie en 1525. Donc, désordre politique qui se règle sous le territoire italien. Et en 1527, Charles Quint fait pression sur le pape, Clément VI, il envoie une armée de mercenaires payés par les Espagnols en Italie. Siège de Rome en 1527, les troupes échappent à tout contrôle, c'est le sac de Rome, traumatisme pour toute la chrétienté. Distension aussi religieuse avec Martin Luther, moine allemand, qui va s'élever contre les abus de la papauté. Abus, manque de discipline, système des indulgences. En effet, Jules II, pour créer de l'argent, vend le salut, entre guillemets, ce qui entraîne qu'on appellera des indulgences. Naissance du protestantisme, puis Calvin, et après le Concile de Trente, 1545-1563, on a une nouvelle règle pour la chrétienté. Artistique, avec la nouvelle Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, on a une atteinte, une perfection, une maîtrise parfaite de la beauté. Et les artistes vont alors revendiquer une autre expression. La singularité de Michel-Ange va continuer à s'exprimer à travers d'autres peintres. Nous partons d'un idéal de beauté, canon du beau, référence à l'antique, mais on va le revisiter. Ainsi, avec Michel-Ange, nous avions une déstructuration du modèle classique après l'avoir mené à son apogée. Et on va réfléchir à une autre manière de représenter le corps humain, ce qu'on appellera la belle manière, qui correspond à un tournant intérieur. On reprend l'esthétique antique, mais en recherchant une autre chose, comme par exemple l'allongement des corps. Michel-Ange, Raphaël vont être cités par les peintres à Venise. Nous étudierons dans les prochaines séances le maniérisme à Venise d'ailleurs. Ce sont des actes de déférence envers le maître. Le corps est omniprésent dans le maniérisme, mais il y a une exagération, parfois une outrance de la représentation. Même les portraits sont plus ou moins déformés. C'est une esthétique particulière avec une distension de l'image. Alors ces peintres, qui sont-ils ? Nous avons d'abord Andrea del Sarto, 1486-1530, Florence, influence de l'idéal du beau de Raphaël et de la force de Michel-Ange. Deuxième peintre, Antonio Allegri, dit le Corrège, 1489-1534, école de Parme. La manière de distorsion commence à s'installer, mais il y a aussi une érotisation des corps réservée à une élite masculine. Et nous avons des œuvres remarquables, notamment Cathédrale de Parme, fresque au niveau du dôme de la cathédrale, l'Assomption de la Vierge. Deuxième œuvre extraordinaire pour moi, l'Eda et le Cygne. Le Cygne, c'est Jupiter, érotisation extrême qui va montrer la relation amoureuse entre l'Eda et le Cygne. Le Cygne, encore une fois, c'est Jupiter. On voit à gauche du tableau la rencontre de l'Eda avec le Cygne, puis la séparation de l'Eda avec le Cygne. C'est un tableau qui est vraiment magnifique. Autre peintre, Jacopo Carucci, dit Pontormo. Florentin, 1494-1557. Pontormo, n'oubliez pas ce nom, car il y a une œuvre extraordinaire, dont les artistes abandonnent les codes classiques et investissent cette nouvelle manière. Alors une œuvre de Pontormo qui est splendide, La Déposition, c'est un chef-d'œuvre, un sommet du maniérisme, 1526-1528. On le trouve à Florence, la Cappella Caponi, Santa Felicita. Et si un jour vous franchissez la porte de cette église, vous penserez à moi, La Déposition, c'est fantastique. On voit des corps mêlés, désolation des visages, élévation des couleurs magnifiques, acidulées, novatrices, c'est superbe. On voit à l'extrême droite du tableau Joseph, qui est un autoportrait de Pontormo. Dans le maniérisme, on part de l'évidence et on va vers autre chose, je répète. Autre grand peintre de cette période, Parmesan. 1503-1540, Parmesan, il va plus loin. Il est né à Parme, considéré comme l'un des grands peintres maniéristes de la Renaissance, formé à Parme, il travaille avec le Corrège, il étudie à Rome les œuvres de Michel-Ange et de Raphaël, il se rapproche d'un peintre florentin, Rosso Fiorentino. On recherche les distorsions des corps qu'on avait vues chez Michel-Ange, par l'artifice de l'autoportrait au miroir. Œuvre au niveau des tableaux, la Madone à l'enfant, on voit un étirement des formes, volontairement érotisé, déformation surtout marquée au niveau des mains. Une œuvre remarquable du Parmesan, la Vierge au long cours, galerie des Offices à Florence, sorte de renversement temporel de la Pietà de Michel-Ange, étalage anatomique des distorsions. L'esthétique classique est toujours présente. En effet, on voit l'arrêt de cheveux de personnages, notamment de la Vierge, mais allongement des mains, allongement du cou. C'est une déformation contrôlée des corps, extrême sophistication. Peintre, nous avons parlé, Rosso Fiorentino, 1495-1540, avec une œuvre, un chef-d'œuvre aussi, la Madone aux quatre saints, composition remarquable, Florence, un travail énorme sous la couleur, capacité de l'artiste à créer, mais chaque artiste cherche ses propres solutions. Un chef-d'œuvre, pour moi, qui est vraiment magnifique, c'est la Déposition. C'est un chef-d'œuvre, couleur acidulée extraordinaire, un rouge éclatant de la robe de Marie-Madeleine qui entoure les jambes de la Vierge. On va le trouver au musée de la Volterra. Rosso Fiorentino devient peintre de Froissart Ier et au château de Fontainebleau, il va exprimer son art dans la galerie François Ier, décoration du château avec Primatis, avec une œuvre très particulière, l'éléphant, Fleur-de-Lysée, dans la grande galerie. Et puis, un peintre merveilleux, Bronzino, 1503-1572. C'est le fils adoptif et l'apprenti de Pontormo. Un portrait extraordinaire qu'on va trouver à la Galerie des Offices à Florence, portrait de Lucrezia Panciatici. On voit un cou allongé, des mains allongées, une esthétique de l'insolite, c'est une peinture de l'érudition. Un autre tableau, le triomphe de Vénus, chef-d'œuvre qui est à Londres, Cupidon, fils de Vénus sur le tableau, peinture aboutie sur le plan technique, volontairement il déforme, luxure, volupté, allégorie dans cette peinture, destinée à une élite cultivée. On recherche le sens caché dans la composition et je vais vous le donner quelques moyens de comprendre ce sens caché. Dans ce tableau, le jeune homme à droite, avec ses pétales roses, signifie le plaisir. La jeune fille, derrière lui, au corps monstrueux du griffon, c'est la duplicité dans l'amour. Les masques autour représentent le mensonge, l'amour trompé. À gauche, le personnage torturé exprime la jalousie, et en haut à gauche, toujours, un personnage symbolise l'oubli. Il tire un voile bleu. Et l'homme barbu avec le sablier, c'est le temps qui passe. Est-ce que les histoires d'amour finissent mal? Grande interrogation. Il y a un portrait aussi que j'aime beaucoup, mais bon, très discuté, portrait de Laurent le Magnifique. Enfin, un peintre, Jules Romain, né à Rome, 1499-1546. Là aussi, c'est le merveilleux, peintre prestigieux, élève de Raphaël. On voit une érotisation de plus en plus marquée dans cette première partie du XVIe siècle. À Mantoue, il crée le palais de Té, résidence princière, et là, il donne libre cours à ses talents. C'est un modèle de l'art architectural maniériste. Enfin, Giorgio Vasari. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette conclusion? D'une part, cet art maniériste va diffuser en France, en particulier on va le retrouver à Fontainebleau. Il va aussi diffuser dans d'autres régions comme l'Espagne avec le peintre El Greco. Une peinture maniériste rompant avec les codes classiques, s'inspirant, citant les grands maîtres, mais qui crée ses propres codes. Anti-conformisme absolu, érotisation des corps, déformation, recherche de la singularité, recherche de la complexité et de la composition. Je vous remercie. La prochaine fois, nous parlerons de la sculpture maniériste, de l'architecture maniériste, et nous allons voyager vers la peinture maniériste à Venise. Bonne journée, à très bientôt.